Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Grand Bien Vous Fasse. Lundi dernier, nous avions consacré une émission à la santé cardiaque des femmes. Ce matin, coup de projecteur sur la santé masculine après 40 ans. Les hommes consultent moins de médecins tout au long de leur vie, sauf bien sûr quand surviennent les premiers pépins de santé. En général, après 40 ans, on s'essouffle plus vite que 10 ans auparavant. Quand on reprend une activité sportive, on se remet un peu plus difficilement de douleurs musculo-squelettiques. Les capacités cardiaques et pulmonaires commencent à faiblir, les risques de cancer augmentent, les dysfonctionnements de la sexualité peuvent entamer le moral, sans compter la crise du milieu de vie qui peut provoquer de sévères déprimes. Mais bonne nouvelle, après 40 ans et au-delà, il est encore temps de se reprendre en main pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, grâce notamment à une activité sportive régulière. Nos experts vous délivrent des conseils pour prévenir certaines pathologies et les premiers signes du vieillissement. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Pas encore 40 ans, non. Notre médecin et romancier, tous les lundis dans Grand Bien Vous Fasse, au menu de votre chronique.
On va parler anxiété et résilience.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Ali.
Ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tous les mois, vous visitez un laboratoire de recherche et on vous retrouve en fin d'émission pour une visite.
La maladie de Parkinson.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
40 ans, c'est un drôle d'âge, ceci dit. Moi, là, je vous promets, vous le voyez pas, mais j'ai plus un corps pour me déshabiller en public quand même. Quand je suis chez le médecin, il me dit ouais, vous voulez pas remonter votre t-shirt? Je dis vous voulez pas tamiser la lumière, vraiment, parce que là, je suis vraiment. La dernière fois que j'étais à Ibiza, je me dis putain, j'ai plus un corps pour être à Ibiza autour d'une piscine, quoi. Là, j'ai un corps pour être en Poitou-Charentes autour d'un étang. Enfin, c'est vraiment le corps que j'ai en ce moment. J'étais rentré d'Ibiza, ma meuf de l'époque, elle me fait je suis sûr que tu m'as trompé, Ibiza. Je dis écoute, ne remue pas le couteau dans la plaie, hein, vraiment, j'ai.
L'humoriste Guilherme Guise au Festival de Montreux en 2021. Bonjour professeur Fabien Doguet.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur en chirurgie cardiaque. Vous avez passé 20 ans au CHU de Rouen. Bonjour Jean-Marc Delorme.
Bonjour Ali.
Vous êtes entraîneur sportif et vous publiez ensemble chez Flammarion un livre qui me concerne au masculin, sport, santé, bien-être après 40 ans. Le cap des 40 ans, c'est un bouleversement pour beaucoup d'hommes. Que dire de celui des 50 ans, professeur Fabien Doguet?
Ça commence à 40 ans, hein, même un petit peu avant. Hein, là, on va avoir un petit peu de perte musculaire, on va avoir des capacités cardiaques et respiratoires qui vont avec le temps s'étioler un petit peu. Donc tout ça va être majoré évidemment après 50 ans, mais ça commence déjà même à partir de 40 ans.
C'est souvent un moment compliqué pour les hommes. En quoi est-ce différent par rapport aux femmes?
La charge mentale va pas être la même. La charge mentale d'une femme, elle est différente de celle d'un homme déjà. Bon, et après, sur le plan plus physiologique, il va y avoir un changement hormonal chez les femmes qui intervient un petit peu plus tard, vers plutôt la cinquantaine, avec la ménopause. Donc effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue hormonal, il va y avoir des changements. Donc ça va être différent. Vous avez dû le voir la semaine dernière avec le cœur des femmes. Les problématiques sont pas tout à fait les mêmes. Les femmes vont être malades un petit peu plus tardivement sur le plan cardiaque que les hommes. Donc il y a vraiment des différences physiologiques.
Mais en quoi cette période de changement physique est plus difficile à accepter pour les hommes ?
Parce qu'ils ont envie de rester jeunes le plus longtemps possible, pour plaire le plus longtemps possible. Donc il va y avoir une modification de leur aussi le physique. Donc ils vont prendre conscience probablement à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose.
Jean-Marc Delorme.
C'est sûr qu'il y a un changement et puis maintenant on assiste quand même beaucoup au fait qu'il y ait des hommes après 40 ans qui ont une deuxième vie, donc on le voit avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres, etc. Donc déjà physiquement, c'est bien si on est pas mal. Et puis il y a aussi maintenant tout un engouement pour les sports d'endurance. On le voit très bien que les inscriptions florissante au marathon de Paris, les trails, le vélo. Donc il y a vraiment quelque chose maintenant où on n'est plus dans l'idée de se faire juste un corps sympa, aller au fitness pour se montrer bien, mais aussi vraiment des espérances sportives et des objectifs et qui sont carrément réalisables.
Alors pour vous, il existe deux options, se laisser aller, laisser faire ou se reprendre en main.
Oui, il vaut mieux se reprendre en main.
Ouais. Pourtant, la tentation de se laisser aller est assez forte.
Oui, c'est pour ça qu'il est important, pour se reprendre en main, il est important de se donner des objectifs. Et ce qui va être difficile, quand on a, quand à 40 ans, on est un peu sur à l'apogée professionnelle. Donc, il faut arriver à se remettre au sport. Donc, ça veut dire y consacrer du temps, en plus de gérer la vie familiale, de gérer la vie professionnelle. Donc, il faut effectivement, parfois, c'est plus facile de ne rien faire. Mais il y a un vrai bienfait sur le plan physique à aller bouger, quoi.
Alors, justement, au cœur de cette reprise en main, l'activité physique et sportive, pour quelles raisons principales l'activité sportive permet de prévenir de nombreuses maladies chroniques qui surviennent très souvent après 40 ans?
Alors effectivement, ça va être l'activité physique va apporter une vraie plus-value sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Ne serait-ce de faire une activité physique simple va diminuer de 30% le risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Et si on fait, comme c'est préconisé par l'OMS, c'est-à-dire globalement 150 minutes d'activité physique par semaine, ce qui représente 30 minutes 5 fois par semaine, et ben avec ça, on va diminuer de 80% le risque de faire un infarctus ou un AVC. Pourquoi? Parce que le fait de faire une activité physique va permettre de diminuer l'hypertension artérielle, enfin de lutter contre l'hypertension artérielle, va avoir un impact sur le cholestérol, etc. Donc tout ça, on va lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Le plus souvent, on va adosser une activité physique régulière, une hygiène de vie alimentaire, donc on va se reprendre en main sur le plan alimentaire. Qui plus est, on va essayer d'arrêter de fumer, le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire, donc tout ça va forcément avoir un impact sur le phénomène cardiovasculaire.
Et de réduire sa consommation d'alcool
aussi,
également.
Voilà.
L'activité sportive permet également de prévenir le diabète de type 2.
Absolument,
chez les
qui est un facteur
personnes
de risque
prédiabétiques.
Ouais, absolument. Ouais.
Après 40 ans et dans les décennies qui suivent, les hommes ont beaucoup plus de bonnes cartes en main qu'ils ne le pensent.
Oui, parce que c'est une remarque qui est pas facile.
Non, mais c'est vrai, rien n'est. J'ai fait tout à l'heure dans l'introduction un tableau un peu négatif hein, de l'état de santé après 40, 50, 60 ans, et pourtant tout est réversible.
Oui, tout est. Alors oui,
tout. Alors, ouais, en partie.
C'est en partie. En tout cas, on peut freiner l'évolution. Voilà. Et c'est important, effectivement, on a des cartes en main parce que se bouger va permettre de, même si on s'y prend tardivement, d'avoir une activité physique va permettre de ralentir le vieillissement, de gagner en espérance de vie, en année de vie, en fait. Donc on a les cartes pour avancer.
Mais qu'avez-vous envie de dire aux hommes de 40 ou 50 ans et plus qui commencent à se sentir finis physiquement et qui se disent, à quoi bon, c'est terminé, Jean-Marc Delorme?
Bah justement, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette espèce de filet où on se dit oh bah pff, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une vie professionnelle, j'ai pas le temps pour le sport, puis bon de toute façon je ferai plus de perf, etc. C'est faux hein, parce que il y a encore quelques années on a vu que le vainqueur de l'UTMB qui est un ultra trail qui fait 170 bornes, 10 000 mètres de dénivelé, bah, il avait la soixantaine hein, quand même. Donc alors maintenant certes les performances sont un peu plus élevées, mais bon il a quand même gagné donc.
Mais c'est exceptionnel. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. À la quarantaine, dans la plupart des disciplines sportives, on ne connaîtra plus les mêmes performances qu'à 20 ans. J'ai fait de la boxe pendant plus de 10 ans dans la vingtaine. J'ai repris récemment. Je peux vous dire que c'est plus exactement
évidemment,
pareil.
Évidemment. Sur tous les sports qui sont en sport, en force explosive, c'est vrai. Par contre, tous les sports d'endurance, il y a encore des choses à faire. Enfin, il faut vraiment sortir de ça et se dire, bah, j'ai plus l'âge, c'est plus possible, c'est faux. Et puis après, pareil au niveau de la situation familiale, professionnelle. Bon, bah, moi avec Fabien, on a des situations professionnelles très très remplies, familiales également. Et pourtant, on fait du sport, de la compétition assez facilement. Et moi, j'ai plein au sein de mon entreprise des clients qui des gros chefs d'entreprise, par exemple, qui vont d'abord caler les séances de sport et après caler leur agenda. Donc, il faut tout ça, c'est possible et rien n'est fini. Il faut y aller. Il faut vraiment se remuer et ça vaut le coup parce que on vit de plus en plus longtemps, autant vivre mieux, quoi.
Oui, mais tout le monde n'est pas chef d'entreprise et n'a pas cette belle possibilité de pouvoir se caser des moments de sport.
Ah ben bien sûr que si, tout le monde peut caser des moments de sport, sans exception.
Bon, alors une fois qu'on a décidé de se remettre à une activité sportive, il est impératif de faire un bilan médical. Que doit déceler ce bilan médical, professeur Fabien Doguet?
À partir de 40 ans, les le principal problème est un problème cardiaque. Hein, donc il faut s'affranchir, il faut faire un bilan cardiaque, cardiovasculaire, pour être sûr de pas faire un infarctus quand on va se remettre au sport.
Qu'est-ce qu'on recherche là dans ce bilan cardiovasculaire ?
Alors c'est du ressort initialement du médecin généraliste. Hein, c'est vraiment la pierre angulaire hein, du bilan. On va faire un interrogatoire de manière générale, voilà, tout simplement, s'enquérir un petit peu de la manière dont vit la personne, si elle a des facteurs de risque, notamment des facteurs de risque cardiovasculaires, si c'est une personne sédentaire. On va le médecin va l'examiner, rechercher des souffles sur les trajets des artères, rechercher un souffle au cœur, regarder un petit peu la mobilité articulaire, etc. Donc vraiment, sur quelqu'un qui a jamais fait de sport ou qui en a pas fait depuis longtemps, qui veut s'y remettre, c'est vraiment un élément indispensable.
C'est obligatoire.
Obligatoire, c'est fortement recommandé. Rien n'est obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et puis à partir du moment où on a des risques cardiovasculaires, il va falloir aller voir un cardiologue, voilà, qui va faire un électrocardiogramme et en fonction des antécédents, etc., proposer une épreuve d'effort.
Alors racontez-nous un peu cette épreuve d'effort. Comment ça se déroule? C'est un test qui dure entre 10 et 30 minutes, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Ça se fait ou sur un vélo ou sur un tapis. Donc on est, il y a une prise de tension qui se fait régulièrement. On a des électrodes pour mesurer l'électrocardiogramme. Et donc on va aller progressivement, on va faire monter la charge, ou en vélo donc en watts ou sur le tapis avec une inclinaison, pour voir étape par étape, niveau par niveau, si au fur et à mesure qu'on augmente l'effort apparaissent ou une hypertension artérielle ou bien des signes de souffrance cardiaque à l'électrocardiogramme. S'il apparaît des signes de souffrance cardiaque, on arrête l'épreuve d'effort et là, il faut faire un bilan plus poussé.
Et on passe cette épreuve d'effort chez un cardiologue ?
Chez un cardiologue, absolument. Oui.
Voilà. Alors, pouvez-vous nous rappeler les grands facteurs de risque chez un homme de plus de 40 ans ?
Alors, il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, on va dire. C'est le genre, donc être un homme est un facteur de risque. C'est
l'âge. Pourquoi ? Par rapport à une femme ? Pourquoi c'est un risque d'être un homme ?
Parce que sur le plan, les femmes, elles sont en tout cas jusqu'à ce qu'elles soient ménopausées, elles sont protégées par leurs hormones. Voilà. Donc l'homme n'est pas protégé, et donc d'être un homme est un facteur de risque. Les femmes rattrapent le retard après, hein, je vous rassure, elles sont aussi exposées après que les hommes. Donc il y a le fait d'être un homme, il y a l'âge. Voilà, l'âge est un facteur de risque. Donc ça, ce sont des et l'hérédité,
l'histoire familiale,
voilà, l'histoire familiale, l'hérédité. Hein, c'est vrai que si on a donc ça, c'est les facteurs de risque non modifiables. Il y a les facteurs de risque qui sont liés à une pathologie. Donc ça, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, voilà, et l'hypercholestérolémie. Mmh. Ça, ce sont des facteurs qui sont liés à une pathologie. Et après, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, que sont le tabac, l'alcool, la sédentarité et le stress. Voilà. Donc il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer, ce que je viens de citer, et puis d'autres sur lesquels on ne peut pas faire autrement. Et il faut savoir que ces facteurs de risque, ils vont se potentialiser. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un seul, ce sera moins pire, entre guillemets, que d'en avoir deux.
Alors j'ai lu dans votre livre un tableau qui pourrait déprimer, c'est la diminution moyenne des fonctions corporelles quand on avance en âge. Ce sont des chiffres exprimés en pourcentage. Pas de scoop, et là, ça décline. Par exemple, à 20 ans, le volume pulmonaire utile est de 100%. À 40 ans, il est de 85%. Et à 60 ans, il descend à 78%. La capacité respiratoire maximale est de 100 à 20 ans et décline à 80% à l'âge de 40 ans.
Voilà. Ah ouais, c'est le vieillissement en fait. Hein,
c'est modifiable c'est ça ou pas? Ou est-ce qu'il faut faire avec?
Non, il faut faire avec. Il faut faire avec ce qui est modifiable. Enfin, ce qui est modifiable, c'est la capacité musculaire où on perd par décade de 2 à 3% de muscles. Donc, ce qui est justement l'activité physique va permettre d'éviter de ralentir ce vieillissement musculaire. Mais le vieillissement cardiaque, il existe. Le vieillissement pulmonaire existe. Neurologique, etc. C'est le vieillissement. Ça fait partie de la vie.
Jean-Marc Delorme, un mot sur la VO2 max. La VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximal. Pour le dire vite, c'est la cylindrée du sportif d'endurance. C'est un peu la puissance de son moteur.
Alors, c'est la cylindrée de tous les sportifs. Hein. Ouais, c'est la puissance. Alors, effectivement, après 40 ans, on a du mal à l'augmenter. Hein. Voilà, jusqu'à avant, on peut l'augmenter à peu près de 18% si on la travaille.
C'est donc la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable d'extraire puis de transporter jusqu'aux muscles lors d'un exercice.
Absolument. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est comme sur une voiture, c'est la cylindrée, hein. Donc eh bien si vous allez à une vitesse et que vous êtes encore en aérobie, vous utilisez l'oxygène, bah plus la cylindrée est grosse, moins vous allez peiner, plus vous arrivez vite par rapport aux autres.
L'aérobie, c'est quoi ?
C'est l'utilisation d'oxygène pendant l'effort.
Fabien Deguet, le but avec l'âge, ce n'est pas d'augmenter cette VO2 max, mais c'est de faire en sorte que ça ne baisse pas trop vite.
C'est tout à fait ça, exactement. De faire, voilà, tout simplement.
Ouais. Comment faire pour que ça ne baisse pas trop vite, justement ?
Il faut s'entraîner.
S'entraîner régulièrement.
Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut varier les séances. Donc là, je pense que Jean-Marc est bien mieux placé que moi pour donner des conseils là-dessus. Mais effectivement, il va falloir privilégier des séances un peu moins denses en intensité, mais il faut en garder un petit peu parce que ça permet de garder cette capacité de VO2max. Et puis après, voilà, il y a toute une base d'entraînement pour essayer de la conserver le plus stable possible, mais elle va diminuer, on va essayer de la ralentir, cette diminution.
La bonne nouvelle, c'est que l'activité physique permet de freiner ce déclin des fonctions corporelles.
Absolument. Ça va permettre d'abord, parce que ça va ramener du muscle, et donc on limitera le risque de chute quand on vieillit, et donc voilà, on va retarder le vieillissement et les complications liées au vieillissement.
Franck nous demande si les bénéfices du sport se font sentir même si on reprend après 50 ans.
Bah oui, oui, bien, oui, sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Bien sûr, oui, oui, bien sûr.
D'accord.
Jamais trop tard.
Et Louis nous demande pourquoi il a tendance à grossir avec l'âge. Il précise qu'il a 48 ans et qu'il est moyennement sportif. Qu'est-ce qui se passe dans son corps ?
La réponse est dans la question, je pense.
D'accord. Bon, bah écoutez, Thierry Lhermitte.
Oui, pour confirmer ce que vous me dites, vous allez pouvoir le développer lors de mes visites sur une maladie qui s'appelle la BPCO, la bronchopneumonie chronique obstructive. On faisait faire du sport à des gens et donc j'ai appris qu'en fait, quand on avait plus de muscles, on utilisait mieux ou moins d'oxygène.
Absolument.
Bizarrement, donc, c'était très important.
Absolument, absolument. Ouais. Ouais, il va y avoir une meilleure utilisation du muscle, une meilleure répartition de l'oxygène.
Il n'a pas encore 40 ans et autour de la table, on le déteste pour ça. Hein. Baptiste Beaulieu, pris pour sa chronique à 10h23.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Notre médecin et romancier à succès, Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, depuis le début de la crise sanitaire, je me suis remis à fumer et à me ronger les ongles.
Oulala.
Une bonne occasion de rappeler que les médecins ne sont pas des robots, que nous aussi nous éprouvons des angoisses, que les patients ne sont pas seuls dans leur corps à éprouver les affres de la condition existentielle. Alors évidemment, les crises successives que nous affrontons depuis 2 ans, l'atmosphère de violence, de colère, d'incertitude peuvent jouer sur ce sentiment d'anxiété. Et c'est aussi l'occasion de rappeler aux patients que c'est normal d'être anxieux, que les événements que nous affrontons en ce moment sont difficiles, il n'y a pas de honte à se sentir dépassé. Et oui, notre monde vient de basculer, on se sentait protégé de tout, à la fois de la maladie et de la guerre, et nous voilà en 2 ans confrontés à une pandémie et une guerre aux portes de chez nous. Mais comment discerner une anxiété normale d'une anxiété pathologique, Ali ? Eh bien, l'anxiété, elle devient pathologique lorsqu'elle trouble, en intensité et dans la durée, la vie du sujet. On la reconnaît car généralement, dans ces cas-là, les symptômes dits somatiques s'ajoutent aux angoisses, parfois des douleurs, des oppressions thoraciques, des palpitations, sueurs, tremblements, etc., etc. L'anxiété et l'inquiétude envahissent tous les aspects de la vie. Et ça m'amène au cœur du message que je veux transmettre ce matin. Le corps est une pâte à modeler, malaxée par les épreuves de la vie. Et nous vivons une époque où le mot résilience est mis à toutes les sauces, Ali. C'est une véritable épidémie de résilience. Il faut être résilient. Les patients et les patientes doivent être résilients, plastiques. C'est comme si on vous tordait le bras en vous répétant « tu vas aller mieux, oui ». Il faut que tu ailles mieux, tu ne peux pas ne pas aller mieux. Eh ben non, parfois la vie est plus grande que nous, plus traître, trop injuste. Donc en vrai, c'est ok si tu n'y arrives pas à passer au-dessus de ta douleur, ou si tu n'y arrives plus, ou si elle t'accompagne doucement, comme un petit chien noir, toujours à tes côtés. C'est ok si on ne pardonne pas à la vie, ou si on pardonne, mais moins bien que son voisin en fait. Il y a un je ne sais quoi d'effrayant dans cette injonction contemporaine permanente à la résilience. Une manière aussi de faire accepter l'inacceptable, d'abdiquer, de se résigner, ou pire, de s'anesthésier face aux injustices. On se souvient de la maxime de Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Oui, peut-être, tant mieux. Mais pour les personnes chez qui ce qui ne les a pas tués les a rendus plus fragiles, ou plus sensibles, ou plus chancelantes. Eh ben oui, parfois ce qui a été fait ne peut être défait, c'est comme ça. Et sans doute serions-nous moins humains si nous étions résilients pour tout, en tout, tout le temps. Et certains guérissent de tout, et c'est tant mieux. D'autres ne guérissent pas totalement, et c'est comme ça aussi. Ils se rongent les ongles, s'angoissent pour eux, pour les autres, pour la marche du monde, et se mettent en colère pour un rien. Il faut continuer, ça oui, mais peut-être aussi continuer en acceptant que tout n'est pas toujours acceptable.
La chronique de Baptiste Beaulieu, professeur François Fabien Doguet, pardonnez-moi, c'est les premiers signes de la sénilité. Pourquoi est-ce que l'activité sportive permet d'atténuer l'anxiété?
L'avantage de faire du sport, c'est que ça va libérer des endorphines, les fameuses endorphines qui apportent le bien-être après une activité sportive. Et donc, ça va être, effectivement, ça va jouer sur l'anxiété, ça va permettre d'apporter ce bien-être et donc limiter et réduire le stress.
C'est un antidépresseur naturel, Jean-Marc Delorme.
Oui, absolument. Ouais.
Vous le constatez, vous, chez vos clients, chez vous-même?
Ah, carrément. Ouais. Ah oui, complètement.
Qu'est-ce que vous constatez?
Le fait de pratiquer du sport, là, il faut effectivement une certaine durée hein, pour que cela fonctionne. Mais effectivement, il y a la libération d'endomorphines, donc c'est cette hormone de bien-être qui est capitale. Et ça, moi, je sais tous les clients que nous avons ont vraiment une sensation juste après une séance, par exemple, de vraiment mieux se sentir, d'avoir cette disparition de stress, c'est cette sensation de bien-être.
Et ça oui, c'est quand même. Il y a des études qui montrent que le fait de marcher, une marche rapide de 10 minutes, 15 minutes, permet de réduire les ruminations anxieuses. Hein. Donc voilà, pas besoin de faire un ultra-trail. Dès 10-15 minutes de marche sportive, on peut constater
de toute manière
ce sujet.
Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est un animal de mouvement. Hein. Ça, on sait ça depuis les chasseurs-cueilleurs. Hein. Donc l'homme a besoin tous les jours, Fabien le rappelait avec ses 30 minutes d'activité par jour, minimum, hein, il faudrait bien plus, mais ça permet vraiment à l'homme de se sentir mieux de manière psychologique, mais également ça lutte contre l'ostéoporose, ça lutte contre les problèmes cardiovasculaires, l'obésité, etc., etc. Donc c'est vraiment très, très important.
On parle de sport ce matin, mais en fait le plus important c'est de ne pas être sédentaire, c'est-à-dire tout au long de la journée de bouger, et dans cette émission le professeur Martine Duclos nous le répète très régulièrement, c'est de ne pas rester inactif, de bouger tout le temps, tout au long de la journée.
C'est clair, il y a toujours moyen de... On n'est pas obligé de prendre l'ascenseur par exemple, on peut très bien prendre les escaliers, c'est très facile. C'est d'abord, quand on prend l'ascenseur, on attend pour prendre l'ascenseur, donc on perd du temps. On est bien mieux à prendre.
Et alors quand on n'a pas le courage de ne pas prendre l'ascenseur, on peut ne pas prendre l'ascenseur pour tout l'escalier.
Voilà.
Eh oui, non, parce que moi, franchement, ça me gonfle de toilettes. Mais par contre, si on va que jusqu'au troisième et qu'on fait deux étages à pied, c'est déjà ça.
C'est déjà ça.
Un jour, tout on pourra aller au deuxième et puis au troisième. Non, mais parce que le tout ou rien, c'est décourageant.
Oui. Voilà. Non, mais tout à fait.
Chronique de Baptiste Beaulieu a podcasté sur l'appli France Inter. Dans un instant, des conseils pour préserver la santé masculine en se remettant au sport après 40 ans. Ce sera juste après Sam & Dave, Soulman, à 10h29. I'm a soul. Sam & Dave interpréter Soul Man.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Comment améliorer la santé des hommes après 40 ans? C'est notre question ce matin avec au cœur du message de nos invités l'activité physique et sportive. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bastien nous demande s'il peut se remettre au sport. Je le cite, j'ai 42 ans, une tension artérielle de 14,9. Je ne fume pas, mais je suis en léger surpoids. J'ai peur de m'y remettre. Professeur Fabien Doguet.
Eh ben, un bilan médical. Pour commencer, voilà, oui. 14,9, on commence à être des chiffres à 43 ans qui sont un petit peu justes, donc ça veut dire qu'il faut aller creuser un petit peu, et puis bah voilà, typiquement, on est à la limite d'une hypertension artérielle, il y a un peu de surpoids, donc c'est un bilan médical, voir un petit peu ce qu'il faut faire, déterminer, et puis voilà, faire ça sérieusement, sans prendre de risques.
Sabine nous écrit, mon mari a démarré le sport après 50 ans, il en a 55, il fait 40 minutes de sport tous les matins, il est suivi par un coach sportif, il a minci de 12 kilos, une vraie transformation, il a démarré suite à des problèmes de dos, du coup ses problèmes ont vraiment diminué, voilà une bonne nouvelle.
Hein, il a tout compris.
Quelle action du sport sur justement les problèmes de dos, Jean-Marc Delorme, vous êtes coach sportif.
Alors évidemment, ça dépend des pathologies. Hein.
Alors là, elle nous parle d'une spondylarthrite.
Ouais. Bah ça effectivement, on peut vraiment l'améliorer avec des exercices. Ah, je reprenais tout à l'heure ce que vous disiez par rapport à l'auditeur précédent. Il faut être très progressif sur la reprise du sport. Une fois que le bilan médical a été fait, il faut être très progressif, pas impacté, pas aller courir une bonne heure alors qu'on est en surcharge. Ça, faut faire très attention.
Sur les problèmes de dos.
Et sur les problèmes de dos, évidemment, si on reprend une musculation, un renforcement musculaire. Idem, progressif sur la ceinture lombo-abdominale. Bon, et puis la musculation des membres inférieurs. Petit à petit, on va pouvoir éradiquer presque assez facilement, j'allais dire, ce problème.
Parce qu'il y a un nouveau paradigme concernant les maux de dos, c'est-à-dire qu'on préconise aujourd'hui l'activité sportive.
Oui.
Il y a 10 ou 15 ou 20 ans, on disait, voilà, il faut plus bouger, il faut attendre que ça passe. C'est fini tout ça.
C'est terminé, mais on le voit maintenant sur les campagnes, hein, les affiches.
Hein, de l'assurance maladie.
Voilà, de l'assurance maladie, il faut absolument ne plus s'arrêter et avoir du mouvement lorsqu'on a mal au dos. Enfin, pour les principaux maux de dos qui ne sont pas des pathologies importante, bien sûr. Hein.
Baptiste Bollier.
Le renforcement musculaire, effectivement, c'est le préalable numéro un pour l'amélioration des rachialgies, des douleurs du rachis. On le voit au cabinet médical, il y a des exercices que j'apprends à mes patients. Je mets la table d'examen, je l'allonge, je me mets dessus en disant ça, c'est comme si vous étiez sur le sol de votre chambre, et je leur montre des petits exercices tout simples de gainage, par exemple, qu'ils peuvent faire à la maison sans risquer de se faire mal.
Exactement.
Aujourd'hui avec l'ère numérique, il y a des comptes qu'on peut suivre qui sont de kinés qui expliquent sur internet des petits exercices à faire à la maison qui sont formidables quoi, et sans risque.
Dans l'hygiène de vie après 40 ans, on néglige trop souvent le sommeil, professeur Fabien Doguet.
Ouais, c'est important le sommeil.
Ouais, et en quoi l'activité physique peut favoriser un meilleur sommeil?
Eh ben, l'activité physique va permettre de mieux dormir. Et mieux dormir va permettre de pouvoir faire une bonne activité physique. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Donc,
à condition tout de même de ne pas faire de sport trop tard, une température corporelle trop élevée peut empêcher de s'endormir.
Voilà. Mais, dans ces cas-là, le problème, c'est qu'on se dit, je vais pas pouvoir faire de sport le soir parce que ça va m'empêcher de dormir. Non. On peut faire du sport. Alors, idéalement, il faut, faut qu'il y ait au moins 4 heures entre la fin de l'activité sportive et l'endormissement. Mais on s'aperçoit qu'on peut quand même faire une activité sportive le soir, simplement. Et à ce moment-là, il faut prendre une douche
froide.
Un peu plus froide pour ralentir la température du corps, pour se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir dormir. Mais l'activité physique va amener une bonne fatigue qui va permettre un bon endormissement. Voilà.
Baptiste Beaulieu.
Moi, je le conseille souvent à mes patients, notamment quand ils me confient des troubles du sommeil, par exemple. La première chose que je leur demande, c'est est-ce que vous pratiquez une activité physique ou est-ce que vous êtes sédentaire? Et effectivement, on s'aperçoit très rapidement à quel point nos modes de vie, notamment nos professions, nous amènent à être de plus en plus sédentaires. Hein. On bouge pas beaucoup du bureau, même moi en tant que médecin. Ben, je suis à mon bureau, de temps en temps je me lève, j'examine les patients, mais la plupart du temps je suis face à face avec le patient et je bouge pas beaucoup, pas assez en tout cas.
Si après 40 ans on n'a pas très envie de se mettre à la course à pied, est-ce que vous conseillez la marche sportive, professeur Fabien Doguet ou Jean-Marc Delorme?
Oui, carrément, mais c'est une très bonne alternative. Hein. Voilà.
À quel rythme, au bord de, il faut aller au bord de l'essoufflement peut-être, ou quel est votre conseil quand on, voilà, on veut
non,
pas
il faut,
courir.
Non, lorsqu'on recommence, il faut être pouvoir parler pendant l'activité, en gros. Hein. Donc c'est ça. Mais c'est une très bonne activité. On en voit de plus en plus maintenant. Boîte à cette boîte Boulogne, enfin pour ceux, pour les
Parisiens.
Pour les Parisiens. Et puis après il y a tous les sports portés, hein. Le vélo, la natation, tout ça, ce sont d'excellents sport, hein, voilà. Alors, juste pour la natation, par rapport au dos, il faut quand même avoir, quitte à prendre quelques leçons, mais avoir des bonnes habitudes de nageur, parce que là, pour le coup, on peut se faire mal au dos, contrairement à ce qu'on disait il y a longtemps.
Voilà. Professeur Fabien Doguet, Georges est inquiet parce qu'il est essoufflé quand il monte les escaliers au bout du deuxième ou troisième étage. Je suis essoufflé. C'est un signe inquiétant.
Alors, ça peut être un
signe
inquiétant.
J'ai pas son âge, hein, mais
voilà, c'est ça. Ça dépend un petit peu de l'âge et ça dépend si c'est quelqu'un qui est en fort surpoids, qui fait pas d'activité physique, etc., qui monte deux étages, qui soit essoufflé. Ça peut être compréhensible.
Ça peut être un signe d'insuffisance
mais
cardiaque.
Ça peut être un signe d'atteinte cardiaque. Donc effectivement, il faut pas négliger ce signe. Un essoufflement, non, n'est pas normal. Voilà, un essoufflement à l'effort, sur un effort qui n'est pas un effort intense, un essoufflement n'est pas normal.
Alors vous parliez de surpoids. Comment savoir si on est en surpoids? On doit se référer au calcul de l'indice de masse corporelle, c'est ça?
Absolument.
Comment ça se calcule d'ailleurs ça?
Il y a une petite formule, mais maintenant le plus simple, c'est encore de prendre un impédance-mètre. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ouais. Et puis voilà. Mais oui, c'est un bon référent. Bien sûr.
On est en surpoids au-dessus de 25, c'est ça?
25.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
C'est le poids divisé par la taille au carré.
Exactement.
Hein, la mesure aussi du périmètre abdominal.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire la répartition des graisses. Là.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire que pour les hommes, au-delà de 94 cm de tour de taille, il faut commencer à s'inquiéter.
Oui, absolument.
Pourquoi? Parce que la graisse abdominale est dangereuse pour notre santé, mais pour quelle raison?
Eh bien, il va y avoir ce qui se voit à l'extérieur existe aussi à l'intérieur.
C'est-à-dire que ce sont les graisses autour des viscères qui sont dangereuses.
Voilà, il va y avoir des graisses autour des viscères et qui, effectivement, peuvent être aussi dangereuses.
Quels sont les risques justement?
Ah bah ça témoigne d'un surgras, mais c'est un peu voilà, ça veut dire que probablement le bilan cholestérol va pas être bon, etc. Donc
avec un risque accru de diabète de type 2.
Voilà, exactement, et de d'hypercholestérolémie, etc.
Alors dans votre livre, vous déconseillez de se mettre au régime. Que doit-on faire alors?
Bah faut faire attention, il y a régime et régime, c'est-à-dire le régime le meilleur, c'est celui qui permet de tenir dans le temps. Le problème des régimes tels qu'on l'entend et tels qu'on voit fleurir dans tous les magazines avant l'été, c'est des régimes one shot où en fait on veut perdre du poids tout de suite et après on sait très bien qu'on va le reprendre. Donc le principe là dans le livre, c'est ce qu'on veut dire, c'est que on va faire du sport, donc il faut avoir une alimentation qui soit adaptée à l'activité physique qu'on va avoir.
Et donnez-nous des exemples. Jean-Marc Delorme.
Non, je vais juste revenir là-dessus. Nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire de reprendre une activité physique, mais pas comme un fou, de manger normalement. Voilà. Après, effectivement, si on passe à un autre stade qui est le stade du haut niveau, et on l'a pas vraiment traité dans le livre pour ces raisons-là, là, effectivement, les diètes sont plus drastiques, les heures d'entraînement sont.
Mais pour le commun
sévères.
Des mortels, qu'est-ce que vous conseillez quand on se remet au sport? Quelle est l'assiette idéale? L'idée, c'est peut-être de cuisiner soi-même, de ne pas utiliser d'alimentation ultra transformée, mais c'est quoi les grands principes de l'assiette de celui qui veut se remettre au sport sans trop de carences?
Des protéines, des sucres lents, des légumes, des fruits.
C'est typiquement ce qu'on entend, c'est les 5 fruits et légumes par jour. C'est tout ce qu'on entend dans les campagnes, c'est complètement ça. Hein. Donc, et après, c'est une balance entre les besoins et les dépenses. Hein. Donc, si on veut maintenir un poids, il faut être à l'équilibre. Quand on va dépenser plus qu'on ne prend, on va perdre un petit peu de poids. Et voilà, on va juste.
Mais comment être en déficit calorique, c'est-à-dire l'idée de consommer moins que le corps ne dépense pour vivre, sans carence? Est-ce que vous conseillez par exemple de prendre des compléments alimentaires, Jean-Marc Delorme, des vitamines, des oligo-éléments?
Ouais, moi c'est moins ma partie, ouais. Mais moi je suis pas trop pour, sauf s'il y a, vraiment un lieu, mais de manger le plus naturellement possible. On a à peu près tout dans l'alimentation normale, sans être obligé de prendre des apports. Après, bon, les médecins peuvent conseiller peut-être de manière momentanée des...
J'ai les compléments nutritionnels à part payer la piscine du laboratoire. Je suis plus pour privilégier un régime méditerranéen.
Rappelez-nous les principes, Baptiste Beaulieu, de cette diète méditerranéenne. On en parle très souvent dans cette émission.
Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des aliments peu transformés et puis de l'huile d'olive.
Peu de viande également, un peu de poisson, et des céréales complètes ou des légumineuses dans la mesure du possible.
L'alimentation apporte tout ce dont on a besoin.
Mais je suis d'accord.
Donc il y a vraiment pas. Et puis après, ça va être éventuellement les quantités qu'on peut faire varier. Mais si on mange équilibré, varié, on sera jamais en carence, jamais.
Qu'est-ce que vous conseillez de manger après l'activité sportive justement? Qu'est-ce qu'on doit privilégier?
Ça dépend ce qu'on a fait.
Ouais. Une course à pied par exemple.
Course à pied, faut récupérer un petit peu de sucre lent, un petit peu de protéines.
Une banane par exemple.
Oui, pourquoi pas. Oui, encore une fois, ça dépend ce qu'on fait. C'est très difficile de répondre comme ça. Mais imaginons qu'on fasse un 10 km un petit peu poussé. Bon, on reprend un petit peu un peu de riz, un peu de légumes cuits, et puis un petit peu de protéines, et puis un fruit en dessert.
Et puis surtout bien se réhydrater.
C'est important. Et on le néglige beaucoup trop souvent.
Très important.
Expliquez-nous l'importance de l'hydratation.
L'eau, c'est plus de 60% de notre masse corporelle. Donc, quand on va faire une activité physique, on va transpirer, donc on va perdre de l'eau et des sels minéraux en même temps. Et donc, de se réhydrater va permettre de recompenser les stocks perdus d'eau et puis de sels minéraux qui se sont évaporés par la transpiration. Donc, c'est simplement la vie cellulaire, l'eau. Donc, c'est indispensable d'être vraiment toujours en balance, dans la bonne balance.
Vous conseillez les boissons énergisantes, les boissons qu'on retrouve dans les magasins spécialisés
Alors, moi, je suis pas trop pour la bonne et simple raison que ce genre de boissons sont dosées, il y a un peu au-dessus, un peu en dessous, il tape au milieu, et puis voilà. Donc c'est pas vraiment déjà les besoins de chacun. Après, moi je pense que le plus simple, moi c'est ce que je fais en compétition, je ne sais pas ce que tu fais Fabien, mais de mettre un jus de citron, un peu de sel, parce qu'évidemment, sans sel, il n'y a pas d'hydratation, ça faut le savoir. Et puis un petit peu de miel ou ce genre de choses, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir des boissons hyper. Je vais me faire des ennemis là, mais des boissons hyper perfectionnées, hyper élaborées pour.
Et la quantité d'alcool, certains médecins que nous avons reçus ici recommandent d'arrêter l'alcool car les dégâts sur l'organisme se font sentir dès le premier verre. Vous partagez cette position, professeur Fabien Doré?
C'est une question piège.
Un petit peu, il en faut bien une.
Non, après...
Honnêtement.
Rien n'est bon dans l'excès, déjà. Bon, d'un sens ou dans l'autre. Voilà, ça répond en partie à la question. Il a quand même été montré...
C'est une réponse de Normand,
C'est une réponse de Normand.
Vous étiez d'ailleurs au CHU de Rouen, c'est ça, pendant quelques années.
Je suis quand même Normand, et même si je vais bientôt quitter ma région, je reste Normand dans l'âme. Et non, rien n'est bon dans l'excès. Après, prendre un verre de vin de temps en temps, c'est pas ça qui va poser de problème. Voilà. Donc d'abord, c'est...
Mais l'alcool entame les performances sportives.
Alors, oui, effectivement, si on le prend peu de temps avant une compétition, c'est sûr que c'est pas terrible. Ça, c'est sûr que se charger un petit peu la veille d'une compétition, on va le payer de toute façon. On va se dire, la prochaine fois, j'arrête. Ça, c'est certain. C'est un bon moyen d'arrêter.
Il faut pas... sauf, je remets encore l'accent sur le sport de haut niveau, qui, effectivement, là, il faut vraiment faire attention à ça. Mais après, il faut pas rentrer dans le stacanovisme, surtout quand on est sur une reprise sportive, du sport. C'est-à-dire, si d'un coup, je me dis, oh là là, je mange juste des salades, et je ne bois plus de vin et je m'entraîne, on ne tient pas. On ne tiendra pas. C'est donc, si on s'autorise à prendre...
Regardez le côté convivial quand même.
Voilà, ça reste, à se prendre peut-être un verre ou deux le week-end, c'est pas dramatique.
Une question qui revient ce matin, à partir de combien de séances de sport par semaine, les effets sur la santé se font-ils sentir, Fabien Doguet?
Ouais, je pense que si, voilà, on en vient tout simplement à ce qu'a donné l'OMS. Hein. C'est 150 minutes par semaine, donc 30 minutes 5 fois par semaine. Donc après, on répartit ça comme on veut. Et quand on fait ça, c'est 80% de réduction d'AVC et d'infarctus.
Voilà. Alors beaucoup vont profiter des vacances d'été pour se remettre au sport. Quels sont vos conseils si on souhaite reprendre pendant les grandes vacances?
Déjà de planifier peut-être une activité sportive un jour sur deux, ça peut être pas mal. De quelque chose aussi qu'on aime, pas se forcer.
On n'a pas parlé du plaisir, tiens, justement.
Mais c'est important le plaisir parce que il faut parfois on dit voilà, il faudrait faire de la natation machin, si on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Donc il faut c'est mieux de choisir peut-être un sport qui soit moins en adéquation avec les besoins, mais quelque chose qu'on aime. Voilà, ça c'est important. Le plaisir est vraiment très important. C'est à chaque fois on va à une séance avec
Et si on s'y remet l'été, il faut évidemment faire attention à l'exposition au soleil. Moi, je vois des types de 40, 50, 60 ans qui, à midi, 14 heures, en plein mois de juillet ou d'août, font de la course à pied. Ça me paraît absolument dingue.
Mais c'est dingue.
C'est dingue, vous confirmez.
C'est dingue, je pense qu'effectivement... Là encore, quand on va courir au soleil, quand on court, on transpire, on perd de l'eau, on perd des sels minéraux. Si qui plus est, on fait ça en plein soleil, on va augmenter sa température corporelle, ça c'est pas bon. Et on va augmenter la transpiration. Et si on compense pas, on va vraiment se mettre dans le rouge. Voilà. Et on risque effectivement d'avoir des soucis. Il vaut mieux courir à la fraîche, ou tôt le matin, ou tard le soir.
Comment se motiver? L'été, on a fait du sport, on est tout content, puis vient la rentrée, vient l'automne, la démotivation arrive. Comment conserver cette motivation? Comment vous faites, vous qui êtes des amateurs d'ultra-trail, comment vous conservez cette motivation, même au plein cœur de l'hiver?
Il y a plusieurs sources de motivation, et effectivement, il faut la trouver. Alors, la première, ça peut être un côté esthétique, déjà de se dire oh là, putain, je me sens quand je me regarde dans le miroir, je me sens quand même nettement mieux. Après, il y a effectivement l'aisance, c'est-à-dire que je vais monter les trois étages et je ne suis plus essoufflé, c'est quand même vachement cool. Et puis après, c'est aussi de se mettre des petits challenges. Ce week-end là, j'ai fait trois tours de lac, je vais essayer d'en faire un quatrième. J'ai réussi mon premier 5 km, mon premier 10 km. Et puis on peut trouver ce genre de challenge. Là, on parlait de course à pied, mais ça peut être tout à fait autre chose ailleurs. Et puis aussi des compétitions, participer à des compétitions, il y en a plein, on n'est pas obligé d'arriver devant les autres, mais par rapport à soi-même, d'avoir cette espèce de challenge par rapport à soi. Donc il y a 1000 choses pour se motiver.
Thierry Lhermitte, vous avez pris des notes, vous qui allez bientôt avoir 40 ans.
On vous retrouve. Je m'en souviens plus, c'est 40 ans quand c'était, je ne me rappelle même plus.
On vous retrouve, Thierry, juste après le disque pour évoquer votre visite dans le laboratoire qui lutte contre la maladie de Parkinson. Ce sera juste après Vendredi sur mer qu'interprète le lac.
Mon esprit trop noir, tu sais, me fait perdre espoir. Je n'ai qu'une envie ce soir, et je l'oublierai pour un peu te voir, pour un peu te voir. Mes envies ne sont que des miroirs de tort. Ne rentre pas trop tard, j'ai peur de pleurer des larmes.
Vendredi sur mer, interprété Lola, qui s'appelait beaucoup à Baptiste Beaulieu. Thierry Lhermitte, tous les mois vous visitez un laboratoire pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors dernièrement, vous vous êtes rendu au Collège de France à Paris pour visiter le laboratoire de Laurent Venance. Il est directeur de recherche à l'INSERM, spécialisé dans les neurosciences et l'étude de la mémoire. Avec son équipe, en particulier avec le professeur Bertrand Degault, qui est neurologue à l'APHP et chercheur, il essaie de mettre au point une thérapie innovante dans la maladie de Parkinson. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette maladie, en quelques mots?
Oui, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative dans laquelle certains neurones du cerveau disparaissent progressivement, entraînant différents symptômes, mais surtout des problèmes moteurs. On va en reparler. On n'en connaît pas l'origine, mais elle est multifactorielle. Il y a à la fois une susceptibilité individuelle et des facteurs environnementaux. L'exposition aux pesticides, par exemple, est un facteur de risque établi. D'ailleurs, la maladie de Parkinson est reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs.
Combien de cas en France?
C'est la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer. Ce sont environ 200 000 malades, dont soit 30 000 nouveaux cas par an. Mais ces chiffres risquent de doubler d'ici 2030 du fait du vieillissement de la population. Et c'est une maladie dont le diagnostic est posé tardivement, en moyenne vers 75 ans.
Et quels sont les symptômes?
Alors, il y a deux types de symptômes. Des symptômes moteurs. D'abord, le ralentissement des mouvements, ce que les médecins appellent l'akinésie, c'est l'apostrophe, akinésie. Les patients peuvent avoir aussi une raideur des muscles et une voix plus faible. Et le symptôme le plus connu, c'est le tremblement de repos. Mais en réalité, il n'est présent que chez 70% des malades. Il faut rappeler, à contrario, que tout tremblement ne veut pas dire maladie de Parkinson. Et puis, alors, à côté de ces symptômes moteurs, il y a une flopée de symptômes non moteurs. Ça peut être la dépression, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des troubles digestifs.
Est-ce qu'on sait ce qu'il se passe dans le cerveau?
Alors, on connaît les mécanismes qui conduisent aux problèmes moteurs. Ils sont dus à la disparition de neurones particuliers situés dans une petite structure à la base du cerveau, la substance noire compacte. Or, ces neurones sécrètent de la dopamine, une substance indispensable, notamment à la planification et au contrôle des mouvements. Et il y a un seuil critique, quand plus de 70% de ces neurones ont disparu, les symptômes moteurs apparaissent.
Existe-t-il des traitements à la maladie de Parkinson?
Eh bien, il n'y a que des traitements symptomatiques. On ne sait pas encore guérir la maladie, car au moment du diagnostic, la plupart des neurones à dopamine sont déjà morts. Et le traitement de référence, c'est un médicament qui soulage les symptômes moteurs, la levodopa ou L-dopa, qui est transformée en dopamine dans le cerveau. Ça marche généralement très bien, et la plupart des patients récupèrent une grande partie de leur capacité motrice. Mais après 5 à 10 ans, inéluctablement, l'efficacité de la L-dopa diminue et il y a des fluctuations motrices et des effets secondaires qui apparaissent.
Et quels sont ces effets secondaires?
Eh bien, c'est l'apparition de mouvements anormaux, parasites et invalidants. En médecine, ça s'appelle des dyskinésies. 90% des patients présentent ces dyskinésies après 9 ans de L-dopa. Au début, on peut ajuster les doses, augmenter le nombre de prises sur la journée, mais arrive un moment où il faut l'arrêter car le malade n'est plus soulagé. Donc là, il faut changer de traitement. Il y a plusieurs possibilités. Des systèmes de pompe pour délivrer en continu de la L-dopa ou de l'apomorphine, une autre molécule. Mmh. Et sinon, la stimulation cérébrale profonde qui nous intéresse aujourd'hui car Laurent Venance travaille depuis des années sur cette option.
Et en quoi consiste cette stimulation cérébrale profonde?
Eh bien, ça consiste à stimuler directement, par un courant électrique faible, une petite structure cérébrale située profondément dans le cerveau, le noyau sous-thalamique. Pour ça, on y implante de petites électrodes reliées à un boîtier de stimulation placé sous la peau. Cette technique fonctionne remarquablement bien. Les patients retrouvent à nouveau une motricité fluide. Mais malheureusement, seuls 7 à 10% des patients peuvent en bénéficier. Car comme il s'agit d'une opération de neurochirurgie très lourde, les critères sont très stricts.
Et donc, quel est le projet de Laurent Venance et de ses collègues soutenus par la Fondation pour la Recherche Médicale?
Alors, l'objectif, c'est de trouver une solution moins invasive pour pouvoir bénéficier à davantage de patients, toujours en stimulant directement le cerveau, mais en ciblant des structures plus superficielles. L'équipe espère ainsi pouvoir stimuler en surface du crâne au lieu de devoir opérer.
Et comment procède-t-il?
L'équipe avait observé chez Laura Parkinson que le cortex moteur était trop actif. Le cortex moteur, pour simplifier, c'est une région superficielle, assez large, du cerveau, impliquée dans le contrôle des mouvements volontaires. Or, la stimulation cérébrale profonde agit sur ce cortex hyperactif en le calmant. Alors le raisonnement de l'équipe, c'est est-ce qu'on pourrait pas remplacer une cible profonde, le noyau sous-thalamique, par une autre, plus superficielle? Le problème, c'est qu'en stimulant directement une région aussi importante que le cortex moteur, on risque d'agir sur des tas de cellules et d'interférer avec des tas de mécanismes indispensables et donc de s'exposer à des effets secondaires pire que le remède.
Et donc, il fallait affiner la cible.
Exactement. L'équipe de Laurent Venance a commencé par identifier, pas à pas, au cœur du cortex moteur, les cellules nerveuses qui pouvaient être ciblées précisément. Elle a réalisé des expériences de simulation cérébrale profonde en enregistrant les différents types de neurones du cortex chez des souris parkinsoniennes. Et en parallèle, elle a aussi travaillé avec des modèles mathématiques. Le résultat, ces chercheurs ont découvert les cellules du cortex moteur qui sont activées par la stimulation cérébrale profonde. Ce sont des neurones particuliers, appelés interneurones. Ils régulent les neurones qui commandent le mouvement. Je vous ai résumé ça de manière très lapidaire, mais en fait, ce sont des années de travail.
On imagine. Et au final, comment remplacer la stimulation cérébrale profonde ?
Eh bien, par la lumière.
Ah bon ?
Ça s'appelle l'optogénétique. L'idée, c'est de modifier génétiquement uniquement les neurones à cibler et leur faire exprimer une protéine, une opsine, qui, sous l'effet d'une lumière spécifique, va permettre leur activation. On peut donc télécommander l'activité des neurones ciblés par la lumière. Et quand ils sont spécifiquement activés par la lumière, certains interneurones superficiels ont bien reproduit les effets de la stimulation cérébrale profonde. Alors actuellement, l'équipe place une petite LED à la surface du crâne des souris parkinsoniennes et refait tous les tests de comportement. Et ses premiers résultats sont extrêmement prometteurs. Comme les applications de l'optogénétique en médecine commencent à se développer, Laurent Venance espère bien parvenir à développer cette solution innovante chez l'homme très bientôt.
C'est assez extraordinaire. Ouais. Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale ?
Eh bien, sur Internet, en envoyant un virement sur frm.org ou si vous voulez donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique, vous envoyez le message « don » en SMS au 92 300.
Merci beaucoup Thierry, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup professeur Fabien Doguet.
Merci
Jean-Marc Delorme.
Avec plaisir.
Je conseille votre livre, il y a plein d'exercices et de conseils au masculin, sport, santé, bien-être après 40 ans et c'est publié chez Flammarion. Demain, comment Montaigne peut nous aider dans la vie ?